Soyez les bienvenus dans la bande originale avec Morgane Cadignan, avec Alexandre Kominek, tout à l'heure Tanguy Pastureau, Daniel Morin, vous l'avez reconnu à son grain de voix, et nos invités Eric Orsena et Bernard Serpiglini, s'il vous plaît.
Pardon, je suis en rouge.
Quelle santé, Morgane, cette voix incroyable.
Ouais, quel coffre.
Je suis un peu prise.
Ah bah le vendredi, elle se prépare.
On continue ensemble, bien sûr. On va parler des mots immigrés. Oui. C'est le bouquin que vient de nous présenter Eric Orsena de l'Académie française, bien entendu. Et Bernard Serpiglini aux éditions Stock. Il y a un petit voyage dans notre langue et les mariages très heureux qu'elle a pu connaître avec une histoire qui nous mène dans d'autres pays, un sujet assez intéressant en cette période électorale. On va discuter tout ça avec eux pendant l'émission.
On va en parler, croyez-moi.
On va en parler. Mais avant ça, blind test, on va parler de quoi d'après vous dans le blind test ?
Oh bah les mots.
Allez.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous mets une suze.
Ah oui, hein, comment tu sais ?
Vous venez souvent ici ? Morgane,
oui,
Angèle.
Oh.
Ça commence qu'à temps.
C'est beau, cool, n'empêche.
C'est quoi la chanson ?
Les mots justes. Si contre moi il est plus fort, j'y risque d'y perdre. Un point pour Morgane, deuxième titre.
Daniel.
Oui.
Christophe Lemonglove. Bah la boum.
C'est ce qu'ils se disent.
Je dirais les mots bleus, les mots qu'on dit avec.
Tu ne dis pas beaucoup de mots bleus, Daniel.
Attends.
Attends. Patience.
Touche pas. Bon, la logique voudrait que Alexandre, ce soit pour toi le troisième titre.
Tu peux fermer la bouche, s'il te plaît. Tu me fais peur.
Morgane ?
Oui.
Piaf ?
Mais oui ! Le titre,
c'est
tu l'as ?
Je sais pas, c'était là, je l'ai tombé sur l'accordéon. Les mots qui me dit, les jolis mots d'amour. C'était un bluff sur l'accordéon, et ça a réussi.
Les mots d'amour, je crois qu'Alexandre Kominek, tout à l'heure, il va nous en donner quelques-uns.
Ah ouais.
Ah ouais.
Il va falloir être solide.
Tu me fais peur là. Quatrième titre.
Morgane.
Oui.
Ah, c'est Mylène Farmer.
En régie, c'était Morgane ou Alexandre?
Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu, Alex.
Non, mais
Morgane en premier. Donc c'est Morgane qui prend le point. Trois points. Mylène Farmer. Farmer, les mots. Un point pour Daniel. Ça donne la pêche, les Mylène Farmer, c'est comme ça.
Mylène Farmer, mais on joue à n'importe quoi.
Là, du crossfit là d'un coup.
J'ai mis le refrain ou pas? Je suis même pas sûr.
Non.
Ah. Ça parle.
Ah, les footings là-dessus. Ça m'a chopé là-dessus.
Cinquième titre, on peut pas savoir, Daniel.
Daniel.
Oui. Vite.
Berger.
Non, Morgane, Sanson.
Ouais. Bah oui.
Ah bah oui. Mais c'est comme toi et moi, Daniel. C'est pas un.
Non, c'est pas
l'un, c'est l'autre.
Oh. C'est pas comme toi et moi.
T'es vilain.
C'est la version live et c'est Sanson. Il y a que Sanson. Sanson n'existe qu'en version live. Ne me regarde pas comme ça.
T'es vilain quand t'as pas pris de petit déjeuner. J'aime pas.
Écoutez comme c'est merveilleux.
Oh là là là.
D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule. Parmi tous ses amis et ses gens qui ne veulent.
Le titre.
Que quelques mots d'amour.
Ben ça fait quand même 4 points pour Morgane, 1 point pour Daniel.
Ouais, ça défile.
Alex,
hein.
Il reste 2 titres.
Pas besoin de rappeler.
Il reste 2 titres. Allez, avant-dernier.
La tête d'Alex.
De ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées.
C'est Morgane en premier.
Grand corps malade.
Bah oui,
pas pardon, désolé.
Du pas pardon de gagner.
D'avoir
l'oreille musicale.
Quelqu'un a le titre ?
Et qui rendent toute tentative.
J'ai pas les mots.
Les mots lents.
J'ai pas les mots.
Pour exprimer la puissance de la douleur.
Ah oui, c'est ça, d'accord. Okay.
J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre, où tes espoirs brûlants ont laissé place à des cendres.
Ah, décembre, cendre.
J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable.
On va pas passer tout, non. Encore malade, hein, voilà.
Mais... Oh, c'est dommage. Hein.
C'est le super banco.
Pas vendredi 25.
Alex,
ah ouais, c'est maintenant ou jamais.
C'est le moment de faire un hold-up.
J'aime bien le moment d'énervement de Lélia. Bon, c'est le super banco.
Super banco.
Alors les enfants, concentrez-vous.
Allez, concentrez-vous.
Allez.
Arrêtez de chahuter là sans cesse. Dernier
chahuter.
Titre.
Sans cesse.
Super banco, Yalla.
Alexandre.
Oui.
Léo.
Non.
Putain.
Chut.
Daniel. Words don't come easy to me.
Ah. Est-ce que t'as le nom...
Ah, c'est un peu bizarre.
Est-ce que t'as le nom de l'artiste? Parce que je l'avais personnellement pas. Esther David.
Oui, c'est ça, ouais. David.
C'est tant qu'il passe sur
Opie avec toi, Léo.
Tu vois celle à laquelle je pense, Léo?
Oui. Ouais. Mâche pas tes mots, celle-là.
Tu vois, c'est pas mieux.
Mais
Daniel, ça va
mieux. Ça a rien à voir avec les mots en plus.
Remets ton pantalon par contre.
Baissez mon pantalon.
Et c'est une victoire de Daniel.
Oh là 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 là.
Mais
oui.
Bravo Daniel.
Merci les amis.
Et on accueille nos invités Eric Orsena, Bernard Certini,
Leïla Kaddour.
Bonjour Eric Orsena, bonjour Bernard Cerquigli, soyez les bienvenus.
Bonjour.
Quel plaisir de vous revoir Eric Orsena.
C'est réciproque, ça veut dire que je suis encore vivant, ce qui est une pas mauvaise nouvelle. Mais vraiment, après un petit Covid assez doux, merci les vaccins.
Ah ouais,
Covid merci les doux, vaccins, ça. Gros rhume, tout ça, et voilà.
On a fait le bilan, le petit bulletin de santé, tout va bien.
Exactement,
voilà.
Exactement.
C'est la grande
forme. Vive les vaccins, un petit salut à la science en même temps.
Allez.
Mine de rien,
ça fait jamais de mal. Oui, ça fait jamais de mal. Et vous venez nous présenter Les mots aux immigrés avec votre acolyte Bernard Cerquiglini. C'est aux éditions Stock avec c'est des illustrations également de François Maumont.
Grand François Maumont.
Ouais.
Ah, illustration. Alors, c'est magnifique. C'est vraiment
C'est vous qui l'avez choisi.
Ben oui, immédiatement. Et donc, c'est le trio, vraiment. Vraiment. Parce qu'on est, on est rien sans lui.
Alors, on n'a pas encore entendu Bernard. Rien. Bernard, bonjour. Soyez le bienvenu.
Bonjour. Bonjour.
Soyez le bienvenu à ce micro. C'est la première fois qu'on vous reçoit dans la bande originale.
Je suis très honoré.
Mais c'est gentil.
Je comprends.
Je vous laisse finir de vous installer. Vous cherchez un petit truc dans votre sac, peut-être. Il y a un petit cadenas. Vous défaites un, il y a le cadenas et tout. Vous êtes, il s'installe.
Oui.
Bernard s'installe.
Ah,
on va parler de cette grande aventure. Comme on le voit sur la couverture du livre, Eric Orsena, nous allons embarquer à bord d'un navire qui va nous permettre.
C'est une belle traversée.
Avec en termes de figure de proue, une Marianne qui regarde à l'horizon et qui regarde sans doute, pas devant, mais derrière. Derrière elle, on a tous les apports de la langue française, tout ce qui fait que cette Marianne aujourd'hui. C'est un peu l'idée. Qu'est-ce qui vous a fait écrire tous
les deux ? L'idée, c'est très simple. C'est pas le grand remplacement, c'est le grand enrichissement. C'est-à-dire que nous nous intéressons à l'histoire vraie, pas à l'histoire fantasmée, pas à l'histoire de la haine, mais l'histoire des apports, l'histoire des échanges, l'histoire de tous les commerces. Et puis, vous savez, le résumé de cette affaire, si on voit vraiment la situation de la langue française, elle doit beaucoup plus à la langue arabe que à la langue gauloise. Il y a beaucoup plus dans la langue française de mots d'origine arabe que de mots d'origine gauloise. Donc c'est ça, c'est la réalité. C'est pas le fantasme haineux, si vous voyez ce que je veux dire.
Vous avez,
pas du tout.
Vous avez envoyé votre livre dédicacé à certains candidats à la présidentielle.
Non, parce que c'est pas sûr qu'ils sachent lire.
Comment est venue cette idée de cette association? Parce que je vous vois tous les deux avec l'œil qui frise, je pense que ça doit donner quelque chose
nous
en séance de travail. Oui, ça sent ça, ouais.
Vous savez, il y a une sorte de règle dans la vie. On croise des tas de gens et on sent qu'une amitié virtuelle était possible. Une amitié était possible. Et parce que nous avions été, par exemple, au conseil d'administration de l'Alliance française, cette belle alliance qui donne ce grand, immense pays qui s'appelle la francophonie. Et puis on disait, tiens, un jour, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et si on n'a pas des projets communs, on se voit moins qu'on l'aurait souhaité.
C'est vrai.
Et le pire, c'est ça, c'est te dire, l'âge venant, je sais pas, la fragilité s'accroissant, on se dit, mais pourquoi ne pas faire ? Et pourquoi ne pas faire ensemble ? Là, on peut faire du sport, on peut faire l'amour, et puis on peut faire des livres.
Et voilà. Comme nous bon, sommes,
bah pour l'instant, vous avez fait le livre. Maintenant, il vous reste le sport.
Nous sommes hétérosexuels. Donc...
Et ben ça,
on verra.
On verra. Mais là, je veux, non, il ne faut pas trop tarder.
On m'a dit que vous étiez en pleine, vous étiez en pleine déconstruction. Vous êtes en pleine déconstruction, Eric.
Oui, je suis, exactement.
Mais finalement, vous parlez de sexualité, c'est aussi ce dont il est question dans ce bouquin, parce que c'est comment des mots se sont entrechoqués, rassemblés, ont grandi ensemble, ont par un autre mariage donné des petits-enfants qui ont fait que, eh ben, on se retrouve avec tel mot aujourd'hui. C'est un peu ça que vous étudiez finalement tous les deux, avec malice, Bernard.
Oui, je crois que les mots font l'amour, les poètes l'avaient dit depuis longtemps. Mmh. Et alors, ils sont peut-être pas toujours très fidèles, ils font l'amour un peu à droite, à gauche, ils font des enfants,
la fidélité, ces enfants c'est voyagent. C'est la vie même.
Oui. Eric l'a très bien
c'est la vie même. C'est intéressant ce que vous dites, la fidélité est un concept. Bien sûr. Pense qu'en rentrant chez vous ce soir, ça va pas être si simple.
Non, c'est une discussion c'est que nous devons avoir dans l'absolu.
Crois-moi quand je vais l'appeler Monsieur Cadour tout à l'heure.
Revenons à ce livre. Donc, ce livre débute, Eric Orsenna de l'Académie française, Bernard Cerchiglini, par une situation, une sorte de fable. C'est une fable en réalité. Au commencement, on pourrait se dire, était, et en lisant les premières lignes, je me dis au commencement était le confinement, parce qu'il n'y a personne dans la rue, ce soir-là le pays est vide, je me dis c'est la première soirée du confinement. Pas du tout. Cette grande soirée, c'est un grand débat présidentiel entre deux candidats qui doivent se départager. Sauf qu'un événement inattendu se produit. Lequel d'entre vous prend la suite ? Eric.
Alors c'était l'idée de base, comme toujours dans les contes. C'est-à-dire qu'il y a donc le débat du deuxième tour des présidentielles. Ouais. Il y a un candidat, disons, républicain, traditionnel, et puis un ou une autre qui est plutôt de la droite extrême.
Une candidate.
Oui.
C'est madame, vous dites madame.
Et voilà. Et donc, qui n'arrête pas de taper sur les immigrés. Ça rappelle quelque chose.
Ça tape sur...
Et alors, brutalement, les mots immigrés décident de faire la grève. C'est-à-dire que le ou la candidate d'extrême droite, là on dessine, il n'y a plus rien, Et alors, évidemment, c'est difficile pour un débat.
Surtout que les mots d'origine gauloise qui lui restent, c'est boue, glaise, cervoise, tonneau, chemin, ruche, sapin, c'est compliqué pour un débat.
Et braguette. Le discours présidentiel est un peu inconvenant.
Mais déjà, c'est tout un programme.
Braguette et tonneau, c'est suffisant.
Il faut sortir de cette situation. Donc, évidemment, on va vers le Conseil constitutionnel qui dit qu'écoutez, voilà ce qui se passe, c'est que il faut que chaque soir, avant le journal télévisé, pendant une demi-heure, on rend hommage aux différentes vagues de mots immigrés qui ont nourri la langue française.
Et à ce moment-là,
les mots immigrés disent bon, ben, on accepte d'interrompre notre grève.
Mais au départ, le conseil est plutôt hostile.
Comme ça.
La réception est plutôt froide.
Qu'est-ce qu'ils viennent faire, vous imaginez, c'est une sorte de gilet jaune lexical, si je puis me permettre.
Les académiciens, toujours
Ce début de fable, de conte, va nous permettre, ainsi, de façon malicieuse, de, selon la soirée télévisée qui va être consacrée à telle ou telle origine, telle langue, de voir un petit peu quel est notre héritage linguistique. Et ça, c'est très très important. On va continuer d'en parler avec vous, messieurs, pour ces mots aux immigrés, aux éditions Stock. On est ravis de vous accueillir. Vous avez l'air en pleine forme. On va s'amuser comme des petits fous, sauf que ici, autour de la table, il y a quelqu'un qui vous aime pas, c'est Morgane Cadignan. Désolé.
Braguette et tonneau.
Eric Orsenna, Bernard Cerchiglini, je vous aime pas, mais après 2 ans et demi de Covid et de masque, moustache d'Eric Orsenna, je suis ravie de vous revoir. Voilà, chacun ses petits bonheurs dans la vie, mais moi, la moustache d'Eric Orsenna, ça m'aide à me dire qu'il y aura un demain. Mais aujourd'hui, les amis, est une belle journée. On reçoit un auteur et un linguiste pour un livre sur l'origine de la langue française avec immigré dans le titre. Autant vous dire que Leïla Kaddour n'a pas fermé l'œil nuit. Je l'avais pas vue heureuse et excitée comme ça depuis le stand dégustation Tiponche au Salon de l'Agriculture. C'était une belle journée. Hein. On avait dégusté de la truffade et adopté un chien. À moins que ce soit le contraire. Ouais. Ah si, c'est ça. On a adopté de la truffade et dégusté un chien. Ça va, un bichon maltais, c'est rien de plus qu'un poulet qui rapporte la balle. Donc ça va.
Ah si.
Ça voit, Daniel. Ah, ça se voit que vous n'avez pas vécu à la dure, quoi. De là où je viens, quand t'as faim et que le frigo est vide, mais ta mamie, elle a intérêt à courir vite, quoi. Moi, chez moi, j'ai un bouquin sans recette de grand-mère, c'est pas des confitures. Bon, si Sinon, sur un autre sujet que le cannibalisme et l'alcool, puisqu'apparemment les soirées à thème c'est ringard. En attendant, les open bars peuvent être intellectuels et c'est bien de temps en temps de boire trop vite quand ce sont de belles paroles. Moi, mot aux immigrés, je l'ai lu quasi d'une traite et j'ai appris plein de trucs à l'inverse de boire autre chose qu'un livre d'une traite. Au moins le lendemain, bah tu t'en souviens. Et les trucs que t'apprends, c'est autre chose que non, il a trompé Estelle. Mais quand au salon de la grille avec une meuf qui sentait la truffe de Bichon Maltais. Ah, c'est chaud. Et moi, les amis, je pensais que j'étais un peu calée en mots, déjà parce que au collège, j'ai fait latin. Et comme tout le monde, j'ai absolument rien retenu, mais j'ai fait le voyage scolaire à Pompéi en troisième. Et c'était fou, Pompéi, t'es là, c'était dingue, t'es dans ce lieu chargé d'histoire. Et le seul truc auquel t'arrives à penser, c'est... En vrai, j'aurais fait quelle pause, moi, à l'arrivée du nuage. Parce que les amis, à l'époque, les Pompéitois, ils savaient pas. Mais maintenant qu'on a l'exemple, si ça nous arrive à nous et qu'on sait qu'on va être figé pour l'éternité, obligé, tu tapes ta meilleure pause, non? Comme ça, les voyageurs scolaires de la civilisation suivante, ils verront les restes de leurs ancêtres figés dans la pierre en train de faire le signe de Joule ou le grand écart. Mais bref, j'étais pas si balèze en mots que ça et j'avais pas fait gaffe qu'on utilise des mots d'autres langues en permanence que si on garde que les mots purement gaulois, il reste pas grand chose. Insérer ici une jolie tirade métaphorique en comparant les mots immigrés aux êtres humains, citant ainsi les candidats d'extrême droite à bien aller se faire cuire le cul. Alors, Eric, Bernard, merci d'écrire sur les mots, de les illustrer, de chercher, de comprendre, de déchiffrer, parce que moi, sans les mots, je trouve qu'on n'est pas grand-chose et on fait n'importe quoi. Par exemple, j'aurais bien aimé savoir avant le petit déjeuner qu'un beagle et un bagel, ce n'est pas la même chose. Ça va pas être une journée compliquée. Ça va être une journée compliquée, je digère très très mal le collier.
Allez. Et Morgane Cadignan, qui était en spectacle hier à Saint-Étienne.
Merci. Venez nombreux.
N'hésitez pas, venez.
Les mots immigrés. Si je devais vous demander à tous les deux d'essayer de nous retracer un petit peu le chemin. Vous avez dit dès le départ, Éric Orsenna, que finalement la langue française avait fait beaucoup plus d'emprunt à la langue arabe qu'au celte. Vraisemblablement, en tout cas en proportion. Je parle sous le contrôle du linguiste ici présent, Bernard, c'est à peu près l'idée.
En fait, ce que nous voulons dire, c'est qu'il n'y a pratiquement que des mots immigrés en français. Oui. Voilà. Parce qu'après tout, les Celtes sont arrivés quelques siècles avant Jésus-Christ, ils sont immigrés eux aussi. Et donc d'abord, au début, nous nous sommes dit, mais y a-t-il un mot de souche? Y a-t-il un mot qui était là avant tout le monde? Alors nous avons cherché, mettant de côté les mots d'origine arabe, latine, gauloise. Et puis le tamis, on a fait passer le tamis. Et au fond du tamis, il y avait un mot. Un mot qui n'était ni ceci ni cela, qui était sans doute le mot préhistorique, le mot le plus ancien, et c'est caillou.
Caillou, ouais, c'est C-A-L.
Oui, c'est la racine.
La racine indo-européenne, la trilitaire, quoi, les trois lettres.
C'est exactement, ça. Voilà, ouais. C'est la racine. Je vois que nous avons affaire à une excellente linguiste, donc c'est une
niveau,
racine.
Le niveau France Inter, quand même, service public. Hein.
Oh, nous sommes à France Inter ici.
Oh, et si donc, vous saviez combien on la paye, c'est la moindre des choses.
Non, c'est cette racine-là, cette racine qui va être commune à plein d'autres langues, c'est ça qu'on va trouver. C'est un peu le point commun. Ça n'a pas vraiment existé, l'indo-européen, c'est une sorte de théorie de linguiste.
Voilà, c'est un peu une idée de linguiste qui voudrait tout de même une langue d'origine. Oui. Et donc, il y a quelques racines, donc la racine cal que l'on trouve dans galet, dans chaillot aussi, dans garrigue, et qui désigne cette pierre du chemin. Et ça nous a beaucoup, beaucoup émus. Et donc, nous sommes dit, il faut qu'il y ait un personnage. Et donc, nous avons raconté ce monsieur caillou qui est au fond d'une grotte et qui est sans doute le plus vieux mot de la langue.
C'est le pré historique. Il est avant l'histoire. Vous savez, comme il y a le premier patient dans les maladies, ben lui, c'est le premier qui parle comme ça. Donc, l'origine. Et puis après, ça s'agrège, ça s'enrichit, ça échange. C'est ça ce qu'on a voulu raconter, qui est notre histoire, au fond. Et c'est ça la merveille d'être avec un linguiste, parce que moi, je raconte un peu des histoires, et lui, il donne de la vérité.
Et quand vous dites, vous passez le tamis pour chercher le tout premier mot, ça consiste en quoi ce travail? Qu'est-ce que c'est la technique?
C'est-à-dire qu'on a dépouillé beaucoup de volumes, et des volumes sur le lexique gaulois, donc on voit à peu près les mots gaulois en français, le lexique germanique, le lexique latin qui est immense. Et donc le tamis, c'est d'éliminer tout ça et de chercher des mots qui ne sont ni l'un ni l'autre, je dis. Et pratiquement, la racine cale est une bonne candidate. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais ça nous amusait de penser que le mot caillou était le plus vieux mot de la langue française.
Manif, aussi, apparemment.
Et puis, on voyage dans le temps, puisqu'il y a des soirées comme ça qui sont consacrées. Initialement, il y a 6 soirées qui sont prévues pour rendre hommage à ces mots immigrés.
Alors,
pour qu'ils cessent.
L'association qui est chargée des soirées, c'est l'AMI.
L'association des mots immigrés. Absolument. dans cette association.
Alors, c'est un certain Nagui qui avait laissé sa place.
C'est ça.
Parce que, n'oubliez pas les paroles, c'était quand même exactement ça. C'est ce dont il s'agit. N'oubliez pas l'origine des paroles.
Vous êtes très fidèle au service public. Hein, oui. C'est France Inter, avec Nicolas et Léa, c'est France Télévisions.
Alors nous, on n'est pas cités dedans individuellement avec Daniel, Morgan, Alexandre.
Non, parce qu'il y a un tome 2, et tout dépend de la manière dont l'émission va se passer.
Ah d'accord.
Vous comprenez ?
Il y a la pression. On nous menace.
Non, c'est pas une menace, c'est une espérance.
Je l'ai pris comme ça.
Vous parlez de la langue comme celle aussi qui va ensuite, on va voyager dans le temps, on va parler de la période latine, de l'apparition du gallo-romain. En fait, elle est très intéressante la façon dont vous expliquez l'apparition du gallo-romain, parce que pour le grand public, c'est pas forcément simple de comprendre quels ont été les grands mouvements pour aboutir à ce qui va être notre français finalement, Bernard.
Voilà, c'est un peu compliqué, mais ça explique la spécificité de la langue. Bref, le celte s'installe, bon...
Il va bien.
Belle civilisation, très très différente de ce qu'on lit dans Astérix. Oui. D'ailleurs, notre personnage est correcteur chez Astérix. Oui. Il corrige un peu les sottises que l'on trouve, mais nous adorons Astérix. Et puis les Romains arrivent. Les Romains arrivent et ils arrivent avec des routes, des administrations, des écoles et ils vont peu à peu éteindre le celte. Mais ce qui est important, ils arrivent avec deux langues. La langue de l'école, le latin que nous avons appris, que vous avez appris au collège et je vous félicite d'avoir fait du latin. Et puis, ça c'est peu connu,
le latin des rues.
Le latin des rues, le latin du commerce, le latin du soldat. Et les Gaulois, c'est ce latin-là qu'ils apprennent dans les échanges de tous les jours. Forcément, en recevant des coups de bâton, en achetant...
Oui, la vraie langue parlée, oui.
C'est la langue parlée. Mmh. Et c'est en latin, sans déclinaison, avec un ordre des mots fixes. Oui. Et c'est ça l'origine du français. C'est une origine qui n'est pas noble du tout. C'est la plus belle langue du monde, le français, nous le savons, et Éric l'illustre. Mais elle a des origines composites, et c'est sa grandeur.
Oui, vous parlez de ce latin des rues, qui a été aussi celtilisé. Et vous prenez un exemple concret, parce que pour qu'on comprenne bien, pour renvoyer au domaine du cheval, par exemple, on a le terme cavalus, qui est vraisemblablement issu du celte. On a en latin dit classique érudit, en tout cas dit scolaire, écus. Et on a une sorte de mélange, en tout cas, entre ces termes-là. On a le grec hippos, qui fait qu'on va se retrouver avec tout ce qui est hippisme, cavalus cheval, écus, équitation. Et Canasson. Tout ça va nous permettre, en effet, de constituer tout le champ lexical autour du cheval. C'est ça l'idée.
C'est ça, c'est la diversité. Il y a le mot d'origine gauloise, parce que les Gaulois étaient des bons commerçants. Ils vendaient des chevaux aux Romains. Donc les Romains ont adopté le mot gaulois et nous l'ont rendu. La maîtresse d'école a enseigné écus aux petits gaulois. Donc on a récupéré écus, équitation, plus le grec. Ce qui fait que je parlais de langue composite, mais très riche, parce qu'on a un vocabulaire fait de trois parties.
Ouais. Et vous le résumez
très bien. Et sur cheval, on a chevalier, chevaleresque, plus le cavalier qui est venu d'Italie au Moyen-Âge. Vous vous rendez compte, ce champ lexical, nous ne sommes vraiment pas à cheval sur les principes.
Et vous le racontez très bien et très simplement. Je me suis dit que cette approche-là aussi de la langue, c'était important parce qu'on pourrait se dire, oh, au secours, la linguistique, l'étymologie, on va être perdu. Il faut connaître des règles que je ne connais peut-être pas pour y accéder. Et vous le dites, par exemple, notre langue a pour souche un mélange instable de gaulois, de latin rustique et de latin savant. Voilà, une fois qu'on est posé comme ça, on a un peu le tableau, on a l'arbre généalogique de notre langue.
Mais voyez, c'est ça qui est merveilleux quand on dit langue vivante. On emploie ce mot vivante sans donner tout ce prix et sa fragilité au mot vivant. Le vivant, c'est ça. Et quand on continue après, l'étape d'après, il y a donc les gallo-romains, ils sont installés et ils ont donné des mots, parce que la Provence, c'est quoi ? La provincia.
La province.
C'est-à-dire, c'est la province de l'Empire romain. Mm-hmm. Et donc, c'est toujours là. Et après, il y a d'autres vagues qui arrivent, qui viennent non pas du sud, mais de l'est, de l'autre côté du Rhin, et à qui nous devons notre nom.
Ouais.
C'est-à-dire, français, c'est une tribu qui est, en fait, allemande. Donc, on imagine, quand à la télévision on dit que la langue française a pour origine nos ennemis héréditaires de Verdun et de 39, quand ça dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, c'est la vérité, les petits loups.
C'est les Francs. Au 4e siècle.
Ben
après
voilà. Et donc, ce sont les seigneurs, ils gouvernent le pays, les aristocrates, l'église, l'administration est aux mains de gens qui parlent une langue germanique.
Le francique.
Voilà. Mais comme ils doivent gouverner et faire travailler les Gaulois, ils ont appris aussi le gaulois, le gallo-romain. Donc, ils parlent ce gallo-romain. Mais ils le parlent avec un fort accent germanique. Et nos braves Gaulois, qui veulent plaire à l'occupant, je fais allusion à rien. Il n'y a jamais eu chez nous de gens voulant plaire à l'occupant.
On appelle ça la tradition.
Bah, exactement. Voilà. Ils se mettent à parler comme les seigneurs francs.
Oui.
Et donc, le gallo-romain, comme langue, a été influencé par le franc parce que les Gaulois se sont mis à parler comme leur maître. Ce qui fait que la langue française, c'est la langue romane, la seule, fortement germanisée. C'est une langue du Nord et il faut le dire et insister. Le vocabulaire, la prononciation, peut-être même la syntaxe, ont bénéficié, disons-le, d'une influence germanique, nous le disons.
Mais voilà, ça, c'était le Nord. Le Sud résistait.
Le Sud, on va en parler juste après, parce que celui qui résiste aussi à la langue française, il est avec nous, c'est Alexandre de Bellec.
C'est un résistant.
Ah, le petit coup de pelle.
Elle devrait faire de la radio.
Pense-y,
ouais. Bonne idée, ça. Allez, changeons de registre. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Qu'est-ce que j'aime le vendredi, franchement, on va pouvoir lâcher un peu ces deux prochains jours, sortir faire la fête. En plus là, ils ont rouvert les boîtes. Si t'es branché et que tu veux voir du beau monde à Paris, faut sortir en pleine semaine. Le week-end, c'est les soirées euses. Ouais, c'est les soirées où il y a les vendeuses, les coiffeuses. Tout ce qui finit en eus, tu sais que ça a fini en échec scolaire. Échec scolaire, très bon nom de salon. Non, mais attendez, ne faites pas. Je les adore, d'accord.
Non, c'est
vraiment.
Pire.
Mais attends, une fois, je finis ma soirée avec une coiffeuse, elle m'a mis un wad en me disant, est-ce que la température vaut combien? J'adore, c'est génial. Tu vois, à contrario, je balance un peu de latin pour équilibrer. Déteste les soirées tristes. Actrice, réalisatrice, autrice. La dernière fois, je parlais avec une meuf, autrice, elle me dit qu'elle est sapiosexuelle.
Oui.
C'est les gens attirés par le savoir et l'intelligence. Alors, je vous le cache pas, à ce moment-là, moi, j'ai vu Denis Brognard m'éteindre le flambeau.
C'est la seule chance.
Il m'a éteint le flambeau en me disant l'aventure s'arrête ici. Mais on a fini ensemble, parce que Coco, il a plus d'un tour dans son sac à malice. De toute façon, ça se dit toujours sapiosexuel, et ça finit toujours par baiser avec des mecs qui font des fautes d'orthographe. En vrai, les sapiosexuels, c'est juste ceux qui n'arrivent pas à coucher avec ceux qui les attirent. C'est comme ceux qui se disent non-violents et qui ont le physique de Houellebecq. Bref, vendredi, c'est super. Et vous savez pourquoi? Parce que vendredi soir, c'est Shabbat. Alors, je sais que mon intro n'était absolument pas cachère, mais je vais vous dire comme c'est super de faire Shabbat. Enfin, de dire que vous faites Shabbat. Alors, vu qu'on est sur une antenne islamo-gauchiste, laïque, cappuccino, pas trop froid, pas trop chaud, je vais quand même rappeler ce que signifie Shabbat. Shabbat, c'est le jour de repos chez les juifs. Ça commence dès la tombée de la nuit vendredi jusqu'à la tombée de la nuit du samedi. Jour pendant lequel on n'utilise pas l'électricité ni le gaz, on se repose. C'est le dimanche des juifs. Sauf que dimanche soir ici, les magasins ne rouvrent pas, alors qu'en Israël, ça repart. Quand tu contrôles le monde, faut un petit sens de l'anticipation. Mais donc, je vais vous dire pourquoi c'est super de dire que vous faites Shabbat. Imaginez le vendredi soir, fin de journée, au boulot, il y a un collègue relou qui vous propose d'aller boire l'apéro. Pire, il propose une soirée. Vous lui dites, je peux pas, c'est Shabbat. Alors, il sera sûrement surpris d'apprendre que vous êtes juif, mais vaut mieux pas être juif qu'embarrassé. Du moins, à cette période de l'histoire. L'excuse du Shabbat, elle est parfaite. Je vous le dis parce que c'est bientôt fini, je suis qu'à contact. Moi, quand je dois aider un pote à déménager, je passe de juif caché à juif cachère. Vraiment, je vous le dis. Il m'appelle, tu me files un coup de main samedi matin pour déménager? Désolé, c'est Shabbat. Mais je viens le soir pour la crémaillère. Donc tu viens que par intérêt, quoi. Tu sais, l'intérêt, c'est nous qui l'avons inventé. D'ailleurs, ils sont où, les 20 balles? Enfin, voilà, démerdez-vous, mais restez bien juif jusqu'au bout. Sinon, on n'y croit pas. Donc voilà, les amis. Maintenant, vous pouvez dire merci, Alexandre. Grâce à ce petit tuto, vous savez quand même maintenant comment faire pour vous éviter quelques galères et profiter à fond de vos week-ends. De voir vos proches ou pas, d'aller en boîte ou de glander dans votre salon. D'ailleurs, en parlant de salon, il faut que je rappelle cette petite coiffeuse, moi. Bon week-end tout le monde, ou plutôt Shabbat Shalom.
Bravo Alexandre Cominec, vous parlez aussi de l'apport de l'hébreu.
Alors juste pour dire que oui, Alexandre est au théâtre Beau-Saint-Martin les vendredis et les dimanches. Ou le samedi aussi, non?
Non, c'est Shabbat. Shabbat. Vous parlez de l'apport de la langue aussi hébraïque dans le français.
Oui, parce que nous avons beaucoup insisté sur l'apport de l'arabe.
Oui.
Mais nous rappelons que bien d'autres langues ont enrichi la langue, et l'hébreu a donné par exemple le mot cidre, tout simplement. Mmh.
Ah ouais.
Pas seulement hosanna, ainsi de suite, mais le cidre vient de l'hébreu. Donc chaque langue a apporté une pierre à l'édifice.
Ouais. Et alors, j'ai découvert un truc super, c'est Montaigne, l'italien, et la douche.
Ah, ça c'est magnifique.
C'est dingue ça. Expliquez-nous, parce que c'est complètement passionnant.
Eric adore raconter cette histoire. Parce que
non, parce que... Donc,
il a succédé à Montaigne à l'Académie française, donc c'est faux.
Non, c'est complètement faux. Et donc, donc, Montaigne voyageait, parce qu'il voulait regarder le monde, donc il quitte sa bonne ville de Bordeaux, et il s'en va en Italie. Et en Italie, il voit des tas de choses, il lit et tout ça. Et puis, comme il fait un peu chaud à Rome, il se dit, il faut un peu que me rafraîchir. Et il pense qu'il n'y a que des bains. Et pas du tout. Il y a on renverse de l'eau sur la tête. Et
il y a un tuyau fixé au plafond, c'est ça?
Exactement. Un petit réservoir au plafond avec un tuyau. Ça s'appelle la doccia. Et la doccia, c'est la douche. Et il revient avec la douche. Donc, l'apport de Montaigne, c'est pas seulement les essais, mais c'est la réussite de la douche.
Et pouvoir chanter sous la douche grâce à Montaigne.
Nous chantons sous la douche grâce à Montaigne.
Voilà.
Exactement.
Et ça, c'est quand même, c'est pas rien. On doit ça à Montaigne.
C'est quand même un cadeau incroyable, comprenez, ce mot-là. Et douche, c'est tellement beau parce que douche, c'est la douceur en même temps.
Mais oui.
C'est ça.
L'histoire des mots, l'histoire de notre langue française, plutôt les mots immigrés, montrer comment notre langue à nous est composée, composite, et qu'elle est joyeuse, et qu'elle est vivante. Et elle continuera à l'être d'autant plus si on continue justement de l'enrichir. On va en parler tout à l'heure avec notre spécialiste Géraldine Moinard qui va nous rejoindre, qui est directrice de la rédaction du dictionnaire Le Robert, tant qu'à faire.
Voilà,
ça on aura fait le tour de la question. On va se plonger dans les années de votre vie, messieurs, et on va commencer dans les années...
Tonneau.
40, en 47 plus précisément. Éric Orsenna, vous écoutiez.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenu, et tant aimé.
Éric Orsenna, 1947, pour évoquer l'année de vos naissances d'ailleurs respectives, absolument, vos naissances. Vous êtes jumeaux de naissance. Pourquoi cette chanson de Léo Ferré, Pauvre Ruteboeuf?
Parce que mon père et ma mère, qui s'entendaient pas très bien entre eux, mais ils adoraient la chanson. Et j'ai été élevé dans l'amour de la chanson. Et l'amour de la langue française fou que j'ai est venu toujours avec une musique. Et donc c'était Le Petit Cheval de Brassens, Paul Fort en même temps, le poème. Et c'était Ruteboeuf, cet immense poète, et mis en musique par Léo Ferré. Donc pour moi, dès le début, la langue était une musique. C'était la tendresse de mes parents et en même temps une musique. Donc pour moi, ça résonne toujours. Il y a toujours une musique dans le moindre mot. Ça peut être des musiques très différentes, de Proust, de tout ce qu'on peut imaginer, de Stendhal et tout ça, mais il y a toujours une musique en même temps. Donc j'ai toujours l'impression de chanter.
Et très tôt, vous avez eu envie d'écrire, très, très jeune, dès l'âge de 8 ans. Vous dites que vous racontiez des histoires, que vous aviez lu presque tout Dumas à 12 ans, et que votre maman aussi, en fait... Lire et écrire.
Alors, j'ai deux sources immenses et je ne serais rien sans elles. C'est ma mère aimait les rois, les reines, et me racontait des histoires de rois, de reines. Elle disait, tu vois, la France est comme ça, les rois, les reines. Et puis mon père, pas du tout. Lui, c'était marin, donc c'était la mer. Donc l'autre côté, il y avait la France un peu comme ça, magnifique, mais un peu...
Sur elle-même.
Comme ça. Et l'autre côté, et mon père qui était dans ce qu'on appelle l'aéronaval. C'est-à-dire les avions, les porte-avions, les choses comme ça, etc., sur la mer. Et j'ai appris à naviguer en même temps que j'ai appris à écrire. Et donc, c'était ça. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la même chose entre l'écriture et la navigation. C'est-à-dire, il n'y a pas de route sur la mer.
Oui.
On doit tracer son chemin.
Ouais.
On peut dire « il », on peut dire « je », on peut aller au présent, on peut aller à l'imparfait. Et on est comme ça dans la liberté et on laisse aussi peu de sillage.
Dans cette même année, 47 pour vous, Bernard, c'était plutôt...
Revoir Paris. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris.
Charles Trenet, revoir Paris. Pourquoi cette musique, Bernard, pour illustrer l'année de votre naissance? Est-ce qu'on écoutait à la maison?
Oui, mes parents ne lisaient pas, mais ils écoutaient de la musique. Et ils m'ont donné le goût de la chanson qui m'a donné le goût de la poésie. C'est par de grands poètes comme Trenet, puis Brassens, que j'ai accédé à la poésie par des généalogies de poètes. Brassens adorait Trenet, Trenet adorait Verlaine, et ça m'a permis de rentrer dans tous ces poètes, et j'ai choisi cette chanson de 1947, date de notre naissance. C'est Revoir Paris aussi, c'est comme je suis comme Trenet, je suis né en province.
À Lyon?
À Lyon, et j'aime tant Paris, et quand je m'éloigne de Paris et que je rentre, je pense à cette chanson, Revoir Paris.
Quand vous parlez de votre famille, vous dites que vous venez d'une famille de charpentiers en fer, que d'origine italienne?
Oui, d'un côté origine italienne, Perugia pour le grand-père, le Piémont. Du côté de la grand-mère, je suis piémontais, je suis de passage entre l'Italie et la France. Et de l'autre côté, ils étaient dauphinois. Et c'était aussi des charpentiers, mais en bois. Donc je suis un bâtisseur, en quelque sorte, j'espère.
Et vous parliez italien, enfant ?
Non, l'italien a disparu de ma famille parce que le grand-père et la grand-mère parlaient des dialectes différents, piémontais et de Perugia, et donc ils communiquaient en français. J'ai appris l'italien ensuite, naturellement c'est une langue que j'adore.
Est-ce que vous pensez que ça a justement guidé vos envies de faire des études de linguistique et de devenir le grand linguiste que vous êtes?
Je ne suis pas un grand linguiste, je mesure 1m80, ça suffit. Non, je suis un linguiste de passage, voilà, ce qui m'intéresse c'est le passage d'une langue à l'autre, et j'ai adoré écrire ce livre avec Eric. J'ai travaillé sur l'ancien français, qui est une langue de passage entre le latin, que vous connaissez bien, et notre langue. J'ai travaillé aussi sur les variétés du français dans le monde, le français québécois, le français du Sénégal. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a de commun, nous parlons tous français, et la différence dans l'espace ou dans le temps.
Dans le
et ce
temps,
qui me plaît, c'est le passage. Comme Eric, je déteste l'essence, l'origine, la souche, la permanence, le purisme. La langue est vivante, elle bouge.
D'ailleurs, le mot souche est toujours mis entre guillemets dans le bouquin quand vous l'évoquez. On sent bien la distance que vous voulez établir avec ce terme et à la façon dont il est utilisé en ce moment.
Ce que dit Bernard, le passage, c'est la vie. C'est un passage comme ça. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est à la fois irremplaçable parce que fragile et singulier. Singulier, mais ça va passer. Donc c'est un éphémère qui va durer. Et donc on est dans cette fragilité incroyable. Tout ce qui a du prix est en fait fragile.
On passe aux années 73.
Elle court, elle court. Yes. La maladie d'amour.
Michel.
Dans le cœur de l'enfant de 7 à 77 ans.
Michel Sardou.
On l'écoute pas en entier ?
Non, hélas, on est pris par le temps. Maladie d'amour. Que se passe-t-il, Eric ?
Ah bah, je deviens fou, moi, quand j'entends
mais
ça.
Ah bon ?
Je deviens fou. Mais quand j'entends ça, quand j'entends Connemara, moi, je suis fou de Sardou.
C'est vrai ?
Et donc, parce que il prend un truc tout à fait au fond de moi, une sorte de, comme on dit, chanson populaire, vous voyez, ça prend comme ça. D'ailleurs, aussi, une chanson comme ça, il y a une sorte de vague en moi, là, qui dit, bah voilà, je suis là aussi. C'est ça qui est là, on peut être à la fois aimé tel vers de Mallarmé et brutalement
bien entendu. Là-bas.
Donc Yves Sardou, comme était Piaf, comme était Montand, quand il imagine, je suis né de là, c'est le terreau comme ça, et dès la première, on sait, hein, dès la première ligne, que cet accord entre la musique et les paroles, ça va durer toute la vie.
Et c'est là.
Et les cheveux blancs, les cheveux gris, je deviens fou.
Il est fou.
En plus, voilà. Chauve comme je suis, s'il m'en restait, vous imaginez.
Non, mais vous n'avez pas pensé à écrire un roman, justement, sur Michel Sardou?
Mais pourquoi
pour dire
pas
votre amour de Michel Sardou.
Eh bien, mais je le déclare haut et fort.
Une collaboration
là,
avec Michel
aujourd'hui.
Sardou.
Aujourd'hui, oui, tout à fait.
Et
tout
comme
à fait.
Vous l'illustrez tout parfaitement, on peut adorer Sardou et choisir comme pseudonyme Orsena, en référence au nom de la vieille ville du rivage des Sirtes de Julien Gracq. Comment on peut associer, en effet, ces deux poètes au sein de sa carrière littéraire, puisque c'est en 73 que vous sortez votre premier livre, Eric Orsena, premier roman.
Ah oui, je vais dire, j'ai ramé parce que j'en avais écrit 11 qui étaient nuls. J'ai montré le 12e qui a été heureusement refusé et c'est le 13e qui a été pris. Donc je suis l'incarnation même de l'absence de don et de l'obstination. Donc allez-y, vous n'avez aucun don.
Ne lâchez rien.
Vous n'avez aucun don, c'est bon signe. C'est bon signe. Le 17e roman a eu le Goncourt.
Ben je ne lâche rien, dit-il. Je ne lâche rien. Et c'est pas parce que j'ai un râteau que, en respectant tout le monde, mais je me présente après. Elle dit, c'est toujours non. Si elle dit non, je recommence.
Eh bien, on continue avec vous, Bernard, dans ces mêmes années. Vous écoutiez Yves Simon. Au pays des merveilles de Juliette. C'est une super chanson. Yves
J'adore
Simon.
Cette chanson. Je l'ai écoutée 100 000 fois. C'est une très belle chanson. Le rythme est très beau. Yves Simon ne chante pas, il parle, il dit un très beau texte. Et c'est une belle chanson d'amour. C'est Juliette Berthaud, naturellement, qui est citée dans la chanson. C'est elle. C'est à elle, qu'il a écrit cette chanson.
Et à cette époque.
J'ai beaucoup écouté Yves Simon. Et je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Et c'est grâce à l'Académie française, car j'ai eu un prix de l'Académie française et Yves Simon en même temps, et nous avons été célébrés ensemble, et nous étions ravis d'être intimidés tous les deux, et moi encore plus, parce que j'étais à côté d'Yves Simon.
Et vous avez chanté ? Vous chantez ou pas ?
Oui, je chante et j'ai fredonné à côté de lui, voilà, et nous avons à mi-voix, parce que nous étions intimidés, vous imaginez, sous la coupole, et nous avons tous les deux à mi-voix chanté ça. C'est un très très beau moment de ma vie.
En 74, Bernard, on vous retrouve enseignant à Vincennes. Vous avez quoi, 26 ans ?
Je suis jeune et je suis assistant à d'anciens Français dans cette université gauchiste. C'était une sorte d'oxymore car tout était d'ultra-gauche, de déconstruction, de critique. Et moi, je venais enseigner une discipline qui a été fondée au 19e siècle. Oui. Je l'enseignais un peu comme au 19e siècle, l'ancien français, la phonétique historique, la morphologie. Ça m'a beaucoup, beaucoup amusé. J'ai adoré Vincennes. J'étais enseignant et puis étudiant puisque j'allais suivre les cours de Deleuze, de Foucault. Je fais l'éloge de Vincennes.
Ça ressemblait à quoi un amphi à Vincennes à cette époque-là ? J'imagine que tout le monde fumait déjà.
Alors d'abord, non, je ne voyais pas mes étudiants parce qu'ils étaient dans un nuage de fumée. On ne se rend pas compte. Fumée. Ensuite, j'ai failli avoir un accident du travail parce que, en rentrant dans la salle, j'ai glissé sur une bouteille de bière qui était par là. Je me rappelle. J'écrivais beaucoup au tableau, parce que j'écrivais des mots d'ancien français, de latin, mais naturellement, j'avais ma propre éponge, parce qu'il n'y avait pas d'éponge à Vincennes. Et dans un coin, il y avait un vieux placard, et je laissais sortir tout le monde, et quand tout le monde était sorti, je cachais mon éponge au sommet du placard. Et un jour, je suis arrivé, et on avait volé le placard.
Le placard.
Voilà, mon souvenir de Vincennes. Bon, après, on a volé la porte, naturellement. Mais,
finalement,
j'ai adoré enseigner à Vincennes.
Cette anecdote-là résume bien la joie.
Oui, bien sûr,
non, mais on ne parle pas d'autre chose. Cette anecdote résume bien la joie que vous avez insufflée dans les mots immigrés aux éditions Stock que vous co-signez Eric Orsena de l'Académie française et Bernard Cerchiglini, illustré par François Momont. On en a dit un mot au début. On va se tourner vers notre spécialiste. Bonjour Géraldine Moinard.
Bonjour Leïla Kadour.
Soyez la bienvenue. Vous êtes directrice de la rédaction du dictionnaire Le Robert. Ça me fait bizarre quand on dit Leïla Kadour comme ça. On va parler des mots. Forcément de la façon dont ils entrent, éventuellement sortent du dictionnaire, je ne sais pas si c'est le cas. Justement, il y a combien de nouveaux mots par an qui font leur entrée triomphale dans le Robert ?
Alors, dans le Robert, on a quelques centaines, environ 300 nouveaux mots, mais aussi nouveaux sens ou nouvelles expressions, puisqu'il y a les mots qui apparaissent, mais il y a aussi des mots qui existent déjà et qui prennent des sens nouveaux, et ça, c'est extrêmement intéressant aussi.
Alors, un petit exemple, peut-être des mots qui sont entrés dans le dictionnaire, là ?
Les derniers mots du dictionnaire, je peux vous prendre. Alors, il y a eu beaucoup de mots liés à la crise sanitaire, évidemment, ces deux dernières années. Le Covid, évidemment, le cas contact.
Ouais, c'est vrai.
La téléconsultation, le distanciel avec toutes les nouvelles technologies qui ont émergé en lien avec la crise sanitaire. Il y a beaucoup de mots de la médecine qui existaient déjà, mais qui sont passés dans le vocabulaire plus courant, on va dire, puisque maintenant tout le monde les entend, en tout cas en ce moment. Et puis on a toujours énormément de mots liés donc aux nouvelles technologies. Ouais. On l'a vu avec le distanciel, avec le VPN. On va avoir des mots liés à la consommation, la déconsommation, le frugalisme.
Comment se fait le choix justement ? Quel mot entre ? Est-ce qu'il y a un comité ? Il faut voter ? Ou se dire qu'il est suffisamment entendu ou utilisé et que l'usage va faire son entrée dans le dictionnaire ?
Alors oui, c'est l'usage principalement. Il y a plusieurs critères, mais avant même le choix, il y a l'étape de la veille, du repérage, de la sélection. Ça, c'est une étape extrêmement importante.
Qui fait ça ?
C'est tout le monde.
C'est vrai, toute l'équipe.
C'est-à-dire, c'est un mélange d'outils informatiques et de compétences humaines qui est fait vraiment, et tout le monde participe. Le service documentation centralise tout ça, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des outils qui vont repérer dans de vastes ensembles de textes les mots nouveaux, ce qui pourrait être un mot nouveau, par exemple, donc les mots qu'on n'a pas dans nos dictionnaires, tout simplement, et qui va analyser ces mots-là, étudier leur fréquence. On va avoir en parallèle, on va étudier les recherches qui se font dans nos propres dictionnaires, sur nos dictionnaires en ligne, par exemple. On peut voir les requêtes des utilisateurs, savoir ce qu'ils ont cherché et ce qu'ils n'ont pas trouvé. C'est vrai aussi pour nos dictionnaires payants. On peut voir aussi ce que les gens ont cherché plus généralement sur le web, pas seulement dans nos dictionnaires à nous, mais ailleurs, parce que peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la réponse chez nous, donc ça c'est intéressant. Et puis on va avoir vraiment la compétence humaine, notamment pour tout ce qui est sens nouveau, c'est quelque chose qui est très difficile à repérer automatiquement, donc on est très très actif et très en veille sur les nouveaux mots. Si on voit apparaître par exemple le mot licorne dans un article d'économie, on se dit que c'est pas le petit animal mignon avec une corne et
qu'il faut s'y pencher.
Et que là il y a quelque chose à creuser derrière. Donc licorne, une start-up qui est cotée à plus d'un milliard de dollars. Donc voilà, on est très actifs. Et à partir de toutes ces données-là qu'on va engranger au cours de l'année, on va se réunir régulièrement pour regarder ce qui ressort, les mots les plus émergents. Bien sûr, la documentation fait une sélection de ces mots-là parce qu'il y en a énormément. On va engranger des milliers et des milliers de mots et sens chaque année et on va en retenir seulement une petite partie en fonction de critères qui sont la fréquence, bien entendu. Si un mot est très fréquent d'un coup, on va étudier de très près le mot Covid quand il est apparu. La fréquence était telle qu'il fallait
forcément lui faire une place, absolument. Voilà. Vous continuez à consulter le dictionnaire régulièrement? Est-ce que c'est un outil? Alors, parce que on va se dire la vérité, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui au quotidien l'utilisent quand c'est pas vraiment leur métier. Vous pensez pas, Bernard?
Non, je pense que les dictionnaires surtout se vendent bien et en papier et en ligne. Et tout le monde consulte le dictionnaire. Mais au fond, le livre de chevet, c'est le dictionnaire.
Vous êtes sûr que l'achat fait l'utilisation? Parce que on peut acheter un objet et pas forcément beaucoup s'en servir.
Mais s'il y a un objet qu'on utilise, c'est le dictionnaire. Ouais. Pour jouer au Scrabble, pour commencer, pourquoi pas? Pour trancher les discussions familiales du dimanche. Oui. Hein, ce mot s'écrit avec deux N ou un seul N? C'est dans les familles, et je peux parler de la mienne, les familles qui n'ont qu'un livre, c'est un dictionnaire. C'est clair. Au contraire.
Et vous savez,
la religion du livre en France, c'est la religion c'est la langue. Et le livre, c'est le dictionnaire.
Éric.
Moi, si j'avais un livre à emporter dans l'île déserte, c'est le dictionnaire. Parce que chaque mot est une histoire. Chaque mot est une histoire. Et il se trouve qu'à l'Académie, j'ai l'immense honneur d'être au fauteuil de Cousteau, de Pasteur, mais aussi de Littré.
Ah oui,
et donc je plonge dans les... Et puis j'étais très très ami, un ami avec une admiration infinie avec Alain Rey, qui a été ce personnage qui a donné de la vie au dictionnaire.
Et qui a fait partie de cette bande originale,
Vous continuez, parce que, comprenez, nous à l'Académie, on est dans le temps, c'est-à-dire on voit si ça va durer ou non, et vous êtes dans l'usage. Donc vous tendez l'oreille, et nous on regarde comment ça se passe.
Alors justement, Géraldine, au quotidien, on parle des mots immigrés aujourd'hui. L'apport de ces nouveaux mots d'origine étrangère dans le dictionnaire, dans le Robert, quels sont-ils? Est-ce que c'est plutôt dans des domaines en particulier? On parle souvent de la cuisine, de la gastronomie qui peuvent...
Alors, dans la gastronomie, on va avoir des mots qui vont venir, pas spécialement de l'anglais, mais vraiment du monde entier, puisque on a une cuisine mondiale, on va trouver des restaurants de tous les pays en France, donc on va avoir des mots qui viennent même du thaï, le pad thaï, on va avoir des mots, des plats indiens, des plats japonais, on va avoir... Donc la cuisine, c'est très varié, on n'est pas sur des anglicismes en particulier, on va avoir beaucoup plus d'anglicismes dans le domaine de la finance, des nouvelles technologies.
Donc, ça, moi je demandais en général, c'est pas tant l'anglais que justement des mots étrangers, parce que dans le livre de ces messieurs, on voit qu'il y a certains domaines, que ce soit la guerre, l'armement, il y a tout un lexique qui fait que par les circonstances, on a un apport de mots. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui nous fait le plus voyager, c'est la gastronomie, c'est la cuisine.
Oui, c'est frappant. Il se trouve que j'aide le dictionnaire Larousse à choisir les mots tous les ans. Donc, je connais ce travail admirable que vous faites au Robert et que Larousse fait parallèlement avec des résultats très, très voisins. Et ce qui me frappe depuis une vingtaine d'années, c'est qu'aussi bien chez Robert que chez Larousse, l'ouverture, l'enrichissement, c'est du côté de la gastronomie. Avec des comme nous avons montré, avec des phases. Il y a eu toute l'époque mexicaine qui est rentrée, l'époque italienne a terminé, il y a eu l'époque japonaise, c'est pratiquement fait, nous avons fait rentrer sushi, tout ce qu'il faut, puis chinoise, et maintenant c'est une sorte de gastronomie de fusion qui apparaît. Et c'est bon signe, après la guerre, après l'informatique, après la médecine, place à la gastronomie. Oui. Cela rend plutôt optimiste.
Et c'est ça qui ça me frappe, c'est qu'au fond, la langue et la gastronomie, c'est pareil. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on est nourri par l'un et par l'autre. Et la langue, c'est pas complètement en dehors du goût. Et donc, il y a cet élément-là. Et puis, se réunir à table, c'est là où on échange. Mm-hmm. Donc, c'est la culture, la table. La table, c'est le premier apprentissage d'une sorte de civilité. Au lieu de bouffer chacun dans son coin et face à un écran, bah là, il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus de fraternité, il y a juste des solitudes juxtaposées. Et donc, c'est la ressemblance entre la gastronomie, cette nourriture d'étape en étape, de voyage en voyage, c'est exactement ce qui se passe avec la langue.
Est-ce qu'il y a des mots, Géraldine, qui n'entrent pas dans le dictionnaire, qui chaque année, qui sont refoulés.
Ils ne sont pas blacklistés. Il y a beaucoup de mots qui n'entrent pas dans le dictionnaire. Comme je vous disais, on en engrange chaque année des milliers, donc on ne les fait pas tous rentrer. Certains ne répondent pas tout à fait aux critères. C'est pas parce qu'un mot est refoulé une année qu'il ne va pas faire son apparition quelques années plus tard.
C'est comme Eric Orsenna, on lui dit non, mais reviens. Hein.
C'est exactement ça. On réexamine les mots des années précédentes, ce qu'on a effectivement recalé, mais recalé pour l'instant. C'est un mot qui peut. On peut prendre l'exemple du mot vaccinodrome, par exemple, qui est un mot qui est apparu en 2009 lors de la crise sanitaire autour du H5N1. Je me mélange toujours les pinceaux dans le nom de cette maladie. Et donc, ce mot, on a préparé des doses de vaccins, on a voulu mettre en place des vaccinodromes. Ce mot est apparu, ça a fait un fiasco. Personne n'a voulu se faire vacciner. Le mot a disparu momentanément. Et le mot est réapparu, là, avec la crise sanitaire actuelle. Et les vaccinodromes ont extrêmement bien fonctionné. Et plus personne n'ignore ce mot. Donc, on a fait entrer ce mot-là.
Un exemple d'un mot qui va sortir du dictionnaire, ou qui est sorti, là, récemment du dictionnaire, parce que c'est intéressant.
Nous, on ne fait pas sortir.
Ils ne sortent pas.
On ne sort pas.
Mais non.
C'est vrai? Donc, ça veut dire que les volumes sont voués à grossir.
Dans la vie mode d'emploi, Georges Perec avait créé un personnage qui était tueur de mots chez Larousse. C'est un pauvre homme qui devait choisir tous les ans les mots qui devaient disparaître. C'est un personnage de fiction, il n'y a pas de tueur de mots.
On ne tue pas les mots, entendu.
Mais non, Alain Rey disait « un mot n'est pas mort, il est endormi ». Regardez. Écouvillon, qui est un vieux mot du Moyen-Âge, désigne un balai pour nettoyer un four. Ce mot, plus personne ne l'utilisait.
Vous avez vu
pendant la pandémie, tout le monde a utilisé écouvillon. Heureusement qu'il est encore dans le Petit Robert et le Petit Larousse. Et nous avons beaucoup d'exemples comme cela.
Heureusement qu'il était en sommeil. Merci Géraldine Moinard d'être venue. Merci, vous êtes directrice de la rédaction du dictionnaire Le Robert. Merci d'avoir apporté votre éclairage. Daniel Morin, est-ce qu'on n'aurait pas un héros du jour aujourd'hui? Allez, c'est à toi.
Alors aujourd'hui, mon héros du jour est ce qu'on peut appeler un individu qui a atteint l'âge de la maturité. Il a 1200 ans. C'est un arbre. Un chêne de Seine-Maritime qui vient de recevoir le prix d'honneur du 10e concours de l'arbre de l'année. Alors pour être très honnête, mon héros n'est plus hyper fringant. Déjà frappé par la foudre, s'il devait marcher, je doute qu'il marcherait droit. Il est équipé de quelques drains pour une irrigation harmonieuse. Et l'année dernière, il fut attaqué par des chenilles processionnaires. En même temps, moi aussi, et franchement... Ça, hein. Mais pour un individu de 1200 ans, waouh, quand même. Eh bien, figurez-vous, en plus, que depuis maintenant 4 ans, il refait de belles feuilles. Et tel notre bande originale, il produit de plus en plus de glands. J'adore ce genre d'histoire. La force tranquille, ça fait du bien. Ça rassure. Du coup, j'ai envie de... J'ai envie de passer un appel solennel.
Non.
Oui. Et comme j'ai envie, je vais le faire. Oui, les amis, j'en appelle solennellement à notre ministre de l'écologie. Très chère Barbara Pompili. L'écologie, tout ça, soyons clairs, tout le monde s'en cogne, tout le monde s'en fout. Moi, je vous propose d'aller à l'essentiel, de frapper un grand coup. Dans chaque ville, à chaque rond-point, sur chaque abri de bus, devant chaque bâtiment officiel, faites planter un arbre, mais un arbre millénaire. L'effet produit, vous le verrez, je vous le garantis, sera bouleversant. Quand on voit un arbre millénaire, on ne peut l'ignorer. On a envie de le toucher. de caresser son écorce rugueuse, mais ami à la fois. Calmez-vous, monsieur. Puis, pourquoi pas se blottir contre lui, sentir battre doucement le flux de sève qui l'alimente. Devant un arbre millénaire, même les chiens pissent différemment. Ils lèvent la papatte, mais avec respect. Madame la ministre, le retour de l'arbre millénaire dans nos villes et dans nos vies mettrait tout le monde d'accord, sauf peut-être ceux qui verraient en lui un obstacle pour leur piste cyclable, si vous voyez ce que je veux dire. Allez-y Barbara, allez-y, plantez.
Bravo Daniel. Plantons. Et avec vous, Tanguy Pastureau, on va planter quoi tout à l'heure?
Eh ben, je vais vous parler des requins. Ils ont mauvaise réputation parce qu'ils mangent des surfeurs, mais ces gens portent des colliers avec des dents de requin. Moi, si quelqu'un portait un collier avec une de mes molaires, je le mangerais aussi, bien sûr.
T'as raison.
On est c'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Morgane Cadignan, Alexandre Cominec, Daniel Morin,
bonjour,
Tanguy Pastureau et nos Daniel. Invités Eric Orsena et Bernard Sapiglini.
Bonjour.
Les mots immigrés, promenades dans notre langue française chez Stock, illustré par François Maumont, qui débute un soir où la France, là, les rues françaises sont vides. Pas un chat dehors. On se dit que se passe-t-il? Forcément, des millions de Français regardent la télévision pour assister au débat.
Le débat de l'entre-deux-tours.
Oui, au débat, le grand débat.
Le grand débat, le vote.
Et oui.
Pour élire pour 5 ans le président de la République, le père ou la mère de la nation.
C'est ça. Et il y a en effet 2 candidats, un homme, une femme, qu'on peut éventuellement identifier assez facilement. Vous ne laissez pas trop de doutes là-dessus. Peu importe, finalement, ce qui compte, c'est pas tant de savoir qui sont les candidats, mais quels sont leurs rapports à leurs concitoyens et à l'humanité en général. Parce que c'est quand même de ça dont il est question dès le début de votre livre, Eric Orsena.
C'est de ça dont il s'agit, parce qu'il y a un ou une candidate qui n'arrête pas d'insulter les immigrés en disant qu'ils mangent notre pain, qu'ils ne servent à rien, etc., etc., qu'ils nous menacent, etc. Et alors, les immigrés en ont marre, donc les mots immigrés font la grève. Donc, le ou la candidate de la droite extrême n'a plus de mots. Donc elle bouge la bouche, mais rien n'en sort. Donc panique générale. Parce
chaos
que dans
national.
Chaos national, on ne sait pas comment, ce qu'on va faire. Donc une délégation de mots immigrés est reçue par le président du Conseil constitutionnel qui lui dit d'accord, chaque soir, on va repousser l'élection, mais chaque soir pendant 15 jours, juste avant le journal télévisé, il y aura une demi-heure qui rendra hommage aux différentes vagues de mots immigrés qui ont nourri la langue française.
Et ainsi,
et
on
ça
va,
commence comme ça.
On va se promener dans l'héritage gaulois, romain, avec le latin, francique, on va parler des francs, bien entendu, de l'arabe.
Oui, parce que français, ça veut dire que nous sommes allemands.
Absolument, en partie.
Français, c'est quand même, c'est ça l'affaire.
Maman, n'écoute pas ce qu'il dit, monsieur. N'écoute pas ce qu'il dit, maman. N'écoute pas ce qu'il dit.
Mais français, ça ne vient pas de la Gaule.
Ça ne vient pas de la Gaule, et français, ça veut dire aussi dans notre langue, en tout cas, qu'on est un peu arabe, qu'on est un peu italien, et voilà.
N'écoute pas, maman.
On est un peu anglais aussi.
Oui, et on est en anglais si l'on est démocrate. Ah. Car avant de parler des américanismes qui nous envahissent, nous avons rappelé qu'au XVIIIe siècle, la pensée libre, elle était en Grande-Bretagne. Oui. Voltaire, Diderot, Rousseau sont allés à Londres et les Anglais avaient inventé le parlementarisme, ils avaient inventé les droits, l'habeas corpus, et nous avons adopté des pratiques politiques et le vocabulaire. Et tout le vocabulaire de la Révolution française, le parlement, qui est un vieux mot français, sur faisceau parler, mais qui est passé par l'anglais. Parler, parlement, parliament, retour, la session, la motion, ainsi de suite, la majorité même. Tout ce vocabulaire, qui est le vocabulaire de notre vie démocratique, est venu au XVIIIe siècle d'une Angleterre qui nous avait donné des leçons de démocratie, en quelque sorte.
Et vous montrez à quel point les mots voyagent et qu'en effet, ils peuvent avoir été fondés ou pensés ici. Ils vont repartir, ils vont revenir. L'histoire de l'abricot, par exemple. L'abricot, je crois qu'il y a un aller-retour assez étonnant, n'est-ce pas,
l'abricot,
Eric?
L'abricot, c'est formidable. C'est le fruit qui mûrit le premier. Donc il est
précoce,
on peut dire. Voilà. Il est là et puis il s'en va vers l'Iran et puis il revient Et on a un autre exemple plus près de nous, parce que on a oublié que les Normands ont envahi l'Angleterre. Donc, il y avait des mots qui étaient des mots français, par exemple, dans le jeu de paume. Mm-hmm. On lève la main en disant « tenez » avant de servir.
Oui.
Donc, « tenez », bah, « tenez » est allé en Angleterre. On a dit « tennis » et « tennis » est revenu. Et quand on dit « fête foraine »,« foraine », c'est de chez nous.
Foraine.
Foraine est allé de l'autre côté et devenu foreign, l'étranger.
L'étranger.
L'étranger est revenu chez nous. Donc c'est de l'autre côté. Vous voyez, c'est sans arrêt des échanges. C'est pas une donnée pour toujours. Pas du tout. C'est échange et ça. Voilà, on met ça, on met dans le pot commun.
Comment réconcilier, voilà, comment réconcilier tous les peuples en montrant que finalement on a des emprunts dans toutes les langues.
Et que cette langue, avec tous ces emprunts, parce que aucune ressemble à une autre, chaque langue est singulière. Et justement, elle est singulière du fait de ces différents apports. Parce que les pourcentages sont différents, on peut dire. Et c'est ça, on va pas dire tout est pareil, c'est pas la musique de prise unique, c'est pas la world music, pas du tout. C'est chaque langue est singulière à cause de ces diversités-là. C'est ça l'affaire.
Les mots immigrés aux éditions Stock et celui aussi qui manie avec brio les mots, c'est Tanguy Pasturo.
J'ai bien réfléchi en gros pour une personne, il y a trois étapes. La vie, moment plus ou moins bref, selon si oui ou non, on a essayé de dire à Joey Starr, vas-y vieux, tire sur mon doigt. Il y a plusieurs types de vie, après celle placée sous le signe de la tristesse, Kurt Cobain, Mélanie Thierry, celle placée sous le signe de la joie, David Guetta, Coé, Tex, celle placée sous le signe de la joie mesurée, l'ensemble des Delerm. Deuxième étape, il y a la mort, si on est croyant c'est horrible parce qu'on est envoyé au ciel et il y a beaucoup trop de monde, on se retrouve avec Bébel qui saute entre deux nuages parce que monsieur fait ses cascades, hein, et Patrick Roy du juste prix à qui il faut expliquer qu'on est passé à l'euro. Puis après la mort, il y a la réincarnation. Alors on y croit, on n'y croit pas, mais moi je trouve l'idée c'est être un chat, par exemple, c'est le seul moyen de se faire caresser par Marine Le Pen, je veux dire, sans être obligé de prendre sa carte au Rassemblement National. Être un chien, c'est sympathique aussi, si vous allez chercher des balles, il y a ça, ou ramasseur de balles à Roland-Garros. Alors après, il ne faut pas mélanger les deux. C'est pas sûr que Nadal, si vous venez vers lui tout nu avec la balle dans la bouche, bon, apprécie. Mais on ne sait pas, personne ne l'a jamais fait. Si ça se trouve, le jour où ça arrive, il dira « Ah, ben enfin, je ne suis pas devenu une star mondiale pour bouffer des bolinos tout seul devant la télé. » Et là, il retirera tout, y compris son bandeau de sa tête qui fera tourner autour de son sexe. Mais en fait, je réalise que j'ai un début de scénario de film X autour du tennis. Il faut absolument que je cale une visio avec Nelson Montfort et Michel, de Jackie et Michel, puisque Jackie préfère le foot. Non, on verrait Djokovic sans slip dans un centre de rétention qui dirait à Nadal, bon, d'accord pour le vaccin, mais si c'est toi qui me l'inocule, tout en tripotant le match de sa raquette, le manche de sa raquette, mais il faut que je finisse vite cette chronique pour m'y mettre. Le titre, jeu, sexe et match. J'ai tout, il me reste juste à convaincre Nadal. Avec l'énergie qu'il a, en plus, on peut tourner le même jour, le 1, le 2, le 3 et le 4. Jeu, sexe et match, spécial gazon. Non, impossible de vous dire pourquoi je me suis tourné vers l'humour avec une telle opportunité de carrière dans l'UX. L'envie de sauver un secteur en souffrance, sans doute. Tout ça pour vous dire que j'aimerais être réincarné en animal. En rat, par exemple. Je me ferais un chemin jusqu'au bureau d'Anne Hidalgo. Je la verrais en pleurs, en train de dire pourquoi les électeurs me détestent-ils, sa mère, le suffrage universel direct. Et là, avec mes petites dents, je lui chatouillerais le mollet pour la consoler. Ça ferait comme dans Ratatouille, sauf que je serais pas cuisinier, mais humoriste. Je ferai que des blagues sur les fromages. Le même type de carrière que Daniel Morin, quoi. Et la journaliste de Télérama écrirait autant quand c'était un être humain, je pouvais pas le blairer, autant en rat, cette blague sur le Babybel, chapeau. En fait, j'aimerais être réincarné en n'importe quel animal, sauf en requin. Oui, puisque le requin a mauvaise réputation et Fabien Roussel n'a pas le temps de changer ça. Il est déjà occupé à essayer de redonner une bonne image des communistes, hein, c'est-à-dire de lui tout seul. Tout ça à cause de ce con de Spielberg, là, Les Dents de la Mer, qui n'est pas le biopic de Camilla Parker Bowles quand elle va se baigner dans la Manche. Mais ce film d'épouvante sur un requin très agressif, mais ça nuit au requin. Mais moi, Spielberg a gâché ma vie. Après Les Dents de la Mer, je me suis mis à avoir peur des requins. Après Indiana Jones, je me suis mis à avoir peur des fouets, toutes ces soirées que je n'ai pas faites. Après La Liste de Schindler, je me suis mis à avoir peur des Allemands. Aujourd'hui encore, quand j'en croise sur la plage, je fuis. Pas vers l'océan, j'ai peur des requins. Non, vers les dunes. Heureusement que Spielberg n'a pas réalisé de film sur les puces de mer, parce que je restais des heures tétanisé sur ma serviette. Et hier, je suis tombé sur un article d'un site de science intitulé « Pourquoi les requins bougent-ils en continu ?» Parce que c'est vrai, personne n'a jamais vu de requin immobile, hein, en train de dire « Oui, personne n'a trouvé, en fait j'imitais Jean-Yves Le Drian. » Non, un requin, ça remue en permanence, c'est le point commun qu'ils ont avec les enfants dans le TGV. Sauf qu'un enfant, pour le calmer, on le met devant l'âne trop sur l'iPhone et un requin, vous allez lui montrer quoi? Les archives de Thalassa? Ça veut lui rappeler son quotidien? Bernard Arnault, il regarde pas BFM Business? Non, le requin bouge. Et savez-vous pourquoi? Eh bien, vous allez apprendre quelque chose. Oui. C'est ma petite promesse à à l'auditeur. Une chronique égale un scénario de film X plus une blague sur les dents de quelqu'un plus une info de culture générale. Eh bien, public attentif, qui seriez suspendu à mes lèvres si jamais je n'avais pas ce masque qui cache cette partie si pulpeuse de mon visage gracile. Le requin bouge en permanence pour respirer, puisqu'ils respirent grâce à leurs branchies qui s'ouvrent et se ferment au gré des ondulations. Alors, à noter qu'à part le mot branchie, cette phrase est réutilisable dans mon porno sur le tennis. Voilà. Donc, pour vivre, tout simplement, ils bougent. Si bien que si je me réincarne en requin, une chronique pour moi, ça sera ça, et c'est difficile, comme ça, de parler en bougeant. Hein. Voilà, mais pourquoi croyez-vous qu'au foot, il crie juste « à moi la balle » parce qu'il court en même temps. Si c'était tous immobiles, je suis certain que Paul Pogba, au bout d'un moment, dirait « au fait, vous ai-je parlé de l'éthique de Spinoza pour qui la substance avec un grand S et l'être soit ce que toute chose possède en commun ?» Mais on ne le saura jamais, puisqu'il court. Alors, dernière info, après je vous laisse, parce que j'ai un film X à tourner, les requins se reposent quand même en se laissant porter par les courants ascendants, ce qui fait que les branchies s'ouvrent sans qu'ils en foutent une rame. Voilà, j'ai rempli ma mission de service public. Bravo. Maintenant, je vous laisse. Je dois appeler Nelson Montfort.
Bravo, Tanguy, sûrement.
Tanguy qui, le 22 avril, sera à Arras et le lendemain à Dunkerque.
Sport, tunnel, escarpins, politesse, sucre, douche, monde piété, je ne pourrais pas
programme
donner
de
tous les exemples. C'est ça, c'est un peu, c'est en pyramide. Je ne peux pas donner tous les exemples de ces mots immigrés que vous avez mis à l'honneur, parce que c'est aussi ça l'objectif de ce livre aux éditions Stock. Le mot sucre, par exemple, est très intéressant, Bernard. Ça fait
ah oui, parce que il vient du sanskrit, il est passé par l'arabe. L'a donné aux Vénitiens et le Vénitien l'a donné aux Français. Donc, ce sont des mots méditerranéens.
Oui.
Ce que nous avons voulu montrer aussi, c'est que les mots naviguent, les mots voyagent, portés par des bateaux, et l'arabe est un bateau. L'arabe est allé chercher des mots et les a fait traverser la Méditerranée. Et
le sucre café,
est venu, comme le café. Mm-hmm. Le café. Et ces mots viennent par l'italien ou par l'espagnol, portés par l'arabe, et viennent parfois de civilisations très anciennes et très éloignées. Les mots s'enrichissent et au passage font des petits. Mm-hmm. Ils sont des marins qui ont une femme dans chaque port, en quelque sorte. Et ce mot d'origine très ancienne, eh bien, on le retrouve en arabe, en espagnol, en catalan, en vénitien, en italien, en français.
S'il fallait vous pencher quelques secondes sur un mot de la langue française, avec tout ce que l'on sait de son héritage, qui vous plaît particulièrement, par sa sonorité, par le lien que vous entretenez avec lui, par exemple, ça peut être un lien de difficulté, hein, pourquoi pas, ça serait lequel, Éric Orsenna ?
Préférence.
Mm-hmm. Pourquoi ?
Parce que parce que j'ai du mal avec préférence. Parce que comme la vie est diverse, qu'est-ce qu'on met préférence, c'est placer devant.
Oui.
Et donc j'ai toujours du mal à dire ça oublie le reste. C'est pour ça que je préfère qu'il y ait beaucoup de dieux plutôt qu'un seul.
Et vous, Bernard ?
Je pense que la multiplicité des dieux enchantait plus la planète qu'un seul dieu.
Et un mot que vous ne voulez pas employer, un mot que vous détestez.
Oh ben.
Que vous trouvez moche, ça peut être aussi esthétique. Hein,
écoutez,
c'est pas forcément...
celui que je déteste en ce moment, c'est la compliance.
Compliance,
voilà.
Alors
on nous
ce que ça veut dire.
Il faut
déjà
que les entreprises respectent la compliance. Moi, je ne sais pas ce que c'est.
C'est quoi la compliance?
Alors, c'est un anglicisme,
oui.
Compliance, qui vient remplacer des choses très simples, comme la conformité avec le droit, comme la technicité d'un règlement, comme l'éthique. Mm-hmm. Tous les mots français transparents ont été remplacés. Ce n'est pas un enrichissement en américanisme, c'est un appauvrissement. On remplace par un mot opaque qu'on ne comprend pas, qui fait chic. Je déteste la compliance, comme je déteste tous ces américanismes qui nous appauvrissent, mm-hmm, alors que tous les autres mots nous ont enrichis.
Et vous, Éric ?
Ils nous appauvrissent parce qu'il ne s'agit que d'argent. Et l'argent, c'est quoi la définition ? C'est l'équivalent général. Et justement, nous parlons de singularité,
ouais,
d'irremplaçable. Et ce n'est pas l'équivalent général.
Et vous, est-ce qu'il y a un mot que vous n'aimez pas ?
Non, c'est une expression.
C'est quoi ?
Pas de souci.
Ah.
Donc, y a une dame merveilleuse et on lui dit, comme ça, on lui fait une proposition très douce, comme ça, etc. Et on lui dit, peut-être pourrions-nous, passer un moment ou la nuit ensemble. Et elle répond, pas de souci.
Mais
alors
non.
Ça, c'est... Ah si.
Pas pour la nuit.
Elle répond
non.
Si.
Non, pas pour la nuit.
Si.
Elle répond non.
Mais
ouais,
ça m'est arrivé dans le meilleur des cas, parce que la plupart du temps, c'est non. Alors d'une certaine manière, je préfère pas de souci.
Il y a un vrai sujet, Éric, là. On en parle depuis le début, quand même, cette histoire de...
Mais pourquoi ? Parce que, vous savez,
il y a un souci.
un écrivain par définition, et c'est une sorte d'avant-garde de l'économie circulaire. C'est-à-dire, si ça va, bah, il se tait, oui. Et si ça va pas, s'il prend un râteau, bah, il essaye d'en faire un best-seller.
Les mots immigrés aux éditions Stock, co-signés Bernard Cerchiglini et Eric Orsena de l'Académie française. D'autres infos dans l'actualité culturelle.
Ah oui.
Quelle est la spécialité d'un nouveau musée qui vient d'ouvrir à Seattle ?
Il est fermé.
Non.
C'est des œuvres virtuelles.
C'est très 2022,
le
oui.
COVID, les NFT.
Ouais, absolument. C'est un musée spécialisé dans les NFT. Il présente des œuvres numériques certifiées, accompagnées d'explications sur les technologies qui les rendent possibles. Les NFT, ça vous dépasse complètement.
Pas du tout. Moi, ça me fascine parce que c'est l'invasion du virtuel sur le réel.
Ouais.
C'est comme ces gens qui veulent déménager sur Mars après avoir salopé notre planète admirable. Donc, ils préfèrent un caillou à une merveille.
Et vous, Bernard ?
Pareil. J'aime l'original. J'aime l'originalité. Et là, c'est valoriser la copie et en faire une œuvre d'art. Et donc, je suis très en colère.
Ah, vous ne pensez pas que c'est une façon de faire entrer l'art dans une autre dimension, de la rendre accessible et peut-être proche d'autres ?
Oui, attendez. Quand vous dire que le premier SMS vaut 60 millions de dollars, en plus, c'est lié à la fausse monnaie, le Bitcoin. Non, ça me fascine, moi.
Parce que dans tous les lots de vente dans les grandes maisons, maintenant, il y a des NFT. Hein,
parce qu'il y a du fric, donc ils se mettent dedans quand ça bouge, tout ça.
C'est
ça qui m'intéresse. C'est cette invasion. Dieu sait si le virtuel est intéressant. Dieu sait si le traitement des millions de données nous a permis de créer le vaccin. Mais ce qui se passe, cette invasion du virtuel par rapport au réel, c'est-à-dire, mais quelle civilisation va ? Il n'y aura plus aucun contact, rien du tout. C'est-à-dire, tout sera virtuel.
Mais même le côté des copies, par exemple, si on parle de la Joconde, il y a la Joconde, on sait où aller la voir, mais il y a des dessins préparatoires ou la Joconde. C'est pas l'original, mais c'est une façon d'avoir une part d'art.
Simplement, c'est pas mal quand même de se rendre dans un endroit précis.
Oui,
d'aller voir dans cet endroit, même d'attendre parce qu'il y a beaucoup de gens. On attend un petit peu. C'est pas mal de voir des êtres humains. C'est pas mal de se parler.
Ils sont pas NFT, voilà.
De se toucher.
Oui.
C'est pas mal quand même. dans tous les sens, de s'émouvoir. C'est quand même ça, quand même, cette merveille d'existence. Il y a une sorte de puritanisme incroyable, on ne va plus jamais se toucher, plus rien, plus se voir, etc. Enfin, pour moi, c'est une horreur.
Enfin, nous, dans l'équipe, on se touche. Hein.
Oui. J'ai bien vu ça.
Et peut-être
bien
trop.
Vu ça.
Peut-être
j'ai
trop.
Bien vu ça. Voilà. C'est pour ça que votre bande est originale. Voilà.
Autre question, quel est, depuis quelques jours, le point commun entre Dany Laferrière, Bernard Pivot et Jean d'Ormesson ?
Prennent du crack.
Depuis quelques jours. Depuis quelques jours, non.
Ils ont passé longtemps.
Ils ont eu accès à une forme d'immortalité depuis quelques jours.
Musée Grévin.
Bravo.
Ah, Musée Grévin.
Dany Laferrière vient d'entrer au Musée Grévin, rejoignant ainsi Bernard Pivot et Jean d'Ormesson. Ils sont assez rares, finalement, les écrivains à être visibles dans ce musée boulevard Montmartre. Les honneurs, vous, de vos côtés, est-ce que vous avez ce qu'il vous faut ? Est-ce que vous aimez les honneurs ? On parlait de la coupole tout à l'heure, on parlait de l'Académie française avec vous, Eric Orsena. Est-ce que ce sont des choses qui vous mettent en joie ?
Il y avait une phrase de Jean d'Ormesson qui était formidable. Les honneurs, pour en être libre, il faut les avoir le plus tôt possible.
Oui.
Et donc, je trouve ça vachement bien, parce que moi, j'ai eu cette chance d'avoir été conseiller culturel de François Mitterrand, ensuite Goncourt, ensuite Académie, et je me suis dit, à 51 balais, les honneurs terminés. Et donc, voilà, ça suffit, tout va bien. Et donc, voilà. Vous savez, il y a un moment donné où on dit, bon, c'est fait, maintenant on est libre. Je me souviens, le moment, à la seconde, on a annoncé que j'avais le concours, je dis bonne chose de faite.
Ça c'est fait, c'est derrière.
C'est derrière parce que ceux écrivains qui disent je m'en fous du concours, c'est plus que des menteurs.
Et vous Bernard alors ?
C'est intéressant parce que j'écoutais Eric et j'ai eu le même parcours mais moindre bien sûr et dans un autre domaine, c'est que j'ai eu la chance de faire une carrière universitaire assez rapide et de me retrouver professeur à 34 ans. Et le jour où j'ai été nommé professeur, comme toi Eric, je me suis dit une bonne chose de faite. Maintenant je suis libre, je vais pouvoir faire ce que je veux.
Notamment Loulipo.
Et ensuite, quelques années après, le plus grand honneur pour moi, j'ai été élu membre de Loulipo.
Et ça, c'est extraordinaire, l'ouvroir de littérature potentielle.
Ça,
on a parlé ici avec Hervé Letellier, notamment, quand on l'avait reçu pour son Goncourt.
Hervé est un très grand écrivain et en plus c'est un ami très cher pour moi. Et donc je suis ravi, vraiment ravi. Et l'Oulipo, c'est ma bande. Ma bande originale.
C'est ma bande. Et ben vous devez bien vous amuser avec eux. Ah, avec Clémentine Mélois notamment.
Nous amusons beaucoup, nous mangeons ensemble et nous buvons un peu ensemble.
Ah tiens, tiens, ça ne m'étonne pas. Rapidement, en quelques mots, les projets pour les mois, les semaines qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer, à part les mots immigrés bien entendu.
Je reviens d'un sommet à Brest sur le sommet. Sur le sommet de la mer, où il y avait beaucoup de responsables qui ont pris des engagements. On va voir si ça va être tenu. La surpêche, les fonds marins, le respect de l'Antarctique, etc. On va voir. C'était passionnant. Et je travaille depuis 25 ans sur les fleuves du monde, parce que la santé de l'océan, c'est la santé des fleuves. Donc je publie un livre de mi-octobre sur les fleuves du monde.
Et vous, Bernard ?
Eh bien, j'ai un projet à court terme qui va me donner beaucoup de joie, c'est écrire un nouveau livre avec Eric Orson.
Ah là là, ça y est, il se quitte plus.
Oui, ah ben non, c'est formidable. Imaginez, savoir, et moi je raconte deux, trois petites choses de temps en temps.
Le couple est formé, les mots immigrés, Eric Orson, Bernard Cerchiglini, illustré par François Maumont, aux éditions Stock. Daniel, des excuses.
Oui, bien sûr, déjà, je suis désolé pour Alexandre Cominec, notre chroniqueur, j'ai eu une jeune femme au téléphone tout à l'heure, à la pause, qui visiblement s'est reconnue dans ton papier. Elle aimerait beaucoup te revoir pour te tondre. Et bâcle la tête, d'après ce que j'ai compris. Désolé pour tous ceux qui, en entendant notre invité, Bernard Cerchiglini, regrettaient de ne pas avoir fait d'études à Vincennes pour suivre les cours de Jean-Pierre Foucault. Alors, séchez vos larmes, les gars. Le Foucault cité, c'était pas Jean-Pierre, le saltimbanque bronzé qui longtemps fut l'amant de Geneviève de Fontenay les soirs de couronnement de Polichinelle. Non, non, pas lui. Non, on parlait de Michel Foucault, fils spirituel hybride, à mi-chemin entre l'animateur et Michel Sardou. Désolé pour la gastronomie japonaise, gastronomie fine et variée, une gastronomie résumée de façon plutôt radicale par notre invité Bernard Cerchiglini. La gastronomie japonaise, c'est sushi et tout ce qu'il faut. Vous savez, résumé, hein, c'est tout un art, bravo. Désolé enfin pour nos fidèles auditeurs fans de Nagui qui ont été déstabilisés, écœurés par la finesse et l'intelligence de cette émission, celle de ce matin. C'est vrai qu'à part la chronique immonde de Cominec, j'ai rien compris. Et dire qu'on reprend lundi avec Nicolas Mathieu, un ancien prix Goncourt, moi j'en peux plus, je suis à ça de partir sur Fun Radio. Je suis capable les amis, hein. Pas de soucis.
Merci Daniel, merci messieurs. Merci d'avoir été avec nous, merci à toute la bande. En effet, lundi on sera avec notre cher Nicolas Mathieu pour Connemara, tiens, un petit clin d'œil.
Hein. Excellent roman, excellent roman.
Alors voilà, on lui transmettra.
Formidablement.
Passez un très très bon week-end sur France Inter. Bon week-end.